Alors donc je vais vous parler donc de ce mouvement, courant, genre artistique qu'on peut qualifier de net art, qui s'est imposé très largement en France et à l'international pour désigner des créations artistiques qui seraient conçues par, pour et avec le réseau Internet. En disant ça, j'évacue tout de suite de l'angle de vue des pratiques qui seraient produites avec d'autres médiums et simplement transférées ou transposées sur Internet ou dans des musées virtuels ou des galeries virtuelles, sans interroger la spécificité du médium ou du média. Donc je vais davantage mettre l'accent sur des dispositifs, finalement, de création artistique qui questionnent la spécificité, les attributs du numérique et notamment cet écosystème particulier qui est Internet. Pour les mondes de l'art, on peut dire que Internet constitue à la fois un support, un outil, un environnement créatif et c'est assez intéressant puisque les œuvres peuvent être produites et diffusées sur le réseau. Internet constitue un outil aussi pour manier alors l'interactivité, le temps réel par exemple, la réactivité, la participation du public. Et puis un environnement également puisque d'une certaine manière, on a aussi affaire à un monde de l'art au sens du sociologue américain Howard Baker, c'est-à-dire que le net art se déploie dans un premier temps à l'écart du monde réel et à l'écart aussi des milieux habituels d'homologation et d'accréditation de la pratique artistique, à l'écart de l'art contemporain, selon une visée souvent assez critique aussi, je dirais pas émancipatrice, on pourrait questionner ça, en tout cas une visée critique à l'endroit justement des frontières que les mondes de l'art établissent entre artistes, amateurs, geeks, bidouilleurs, etc., informatiques. Dans ce contexte, on peut dire que la conception de dispositifs interactifs, dont j'ai proposé une typologie, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui, vise la production d'œuvres, mais aussi de formes de communication particulières qui sont intéressantes à observer. Site internet, courrier électronique, liste de diffusion, forum de discussion, blog, technologie comme la syndication, les tags, le podcasting, vidéo blogging, etc. Tout cela constitue des cadres de création renouvelés et engendre autant des formes d'art que des vies, des formes de vie en ligne ou des formes d'occupation du réseau aussi que les développements récents du Web 2 ont radicalisé. Le net art s'est développé d'abord donc en autoproduction et je vais considérer ici que si on a affaire à un domaine de création artistique, je vais faire l'hypothèse aussi que le net art relève d'une culture de la critique en ce qu'il diffuse peut-être une pensée alternative des réseaux informatiques et du numérique, tout en propageant l'idée que la créativité peut faire l'objet d'une appropriation sociale. Pour tester cette hypothèse, je vais d'abord rappeler quelques œuvres de détournement artistique qui illustrent ce que l'on pourrait appeler cette critique artiste vis-à-vis de l'injonction à l'innovation technologique ou à la créativité numérique. Et ensuite, peut-être, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que le net art ou l'esprit du net art influence et détermine aussi de nouvelles pratiques hors du réseau, hors de l'écran, dans la sphère publique, qui repose à nouveau frais, de mon point de vue, la question des relations parfois controversées entre création artistique et critique numérique. Dès l'origine, le net art a questionné les spécificités technologiques, politiques et sociales de son médium qu'est Internet. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il s'est développé massivement en Russie ou dans les pays de l'ex-Europe de l'Est, où des artistes comme S. Bunting, artiste militant yougoslave, Olyana Lialina, Alexei Shulgin en Russie ou Vuk Kozik en Slovénie ont été les fondateurs de listes de diffusion, par exemple comme NetTime, Syndicat, 7-Eleven, qui étaient des milieux ou des œuvres dans lesquelles la critique des régimes non démocratiques, l'activisme, le cyberféminisme constituaient les prémices de la création sur Internet. Je vais essayer d'interroger ici cette posture, finalement, hein, cette posture qui consiste à occuper aussi le réseau pour y produire une pensée à la fois esthétique et politique. Alors, peut-être que dans un premier temps, si on considère dans le milieu des années 90, 94, 95, les premières actions que les net artistes ont déployées sur le réseau, on pense tout de suite à Jody, ce collectif aujourd'hui connu de deux artistes, mais qui opérait anonymement sur la toile en ne désignant pas leur action comme étant artistique immédiatement ou en ne disant pas qu'il s'agissait de faire œuvre, mais au contraire en essayant de contaminer l'espace du réseau en empruntant la logique des hackers ou des pirates pour produire ce qu'ils appelaient des virus artistiques d'une certaine façon. On est loin justement de l'idéologie de l'interactivité ou de la participation, puisque là, au contraire, il s'agit de faire du public, en quelque sorte, la victime d'un complot artistique, puisque les œuvres visent à renvoyer ce public à la relation qu'il entretient avec le numérique, avec l'ordinateur, avec Internet. Ici, par exemple, on a un premier projet qui arbore, vous voyez, une esthétique très minimale, comme ça, avec ce logo 404 qui signifie l'erreur système, et une prolifération de petites fenêtres pop-up qu'on connaît bien dans les sites commerciaux aujourd'hui, hein, qui vont envahir toute la surface de l'écran et paralyser la navigation. Et à mesure que cette navigation est paralysée par cette prolifération de petites fenêtres pop-up, il y a une deuxième action qui s'opère en tâche de fond, qui est que le navigateur ordonne le téléchargement d'une application sans qu'on l'ait demandé ou désiré. Et lorsqu'on découvre l'icône de cette application sur le disque dur, sur le bureau, ça dépend comment on a configuré son logiciel de téléchargement, et qu'on s'amuse à cliquer sur ces icônes, ça génère un crash de l'ordinateur, c'est-à-dire que tout à coup, le clavier est inopérant, le son est assourdissant et l'écran est complètement déstructuré, comme vous le voyez ici à droite. Donc c'est une expérience un peu étonnante, mais qui part du principe qu'il peut y avoir aussi une esthétique du bug, du crash, de l'incident technologique, et qui pose aussi la relation anthropologique qu'on peut avoir à la machine. Souvenez-vous, dans le milieu des années 90, la relation à l'ordinateur était quand même une relation assez fébrile, inquiète, voire paranoïaque, puisque elle est encore pour partie aujourd'hui. Hein, on craint toujours l'invasion de virus, la perte des données, le crash de la carte mère, etc. Ici, ces artistes interrogent cette émotion particulière, sensible, que peut générer cette addiction aussi, hein, ou cette relation particulière à l'environnement technologique et à Internet. Ils considèrent que l'œuvre d'art se situe à la fois dans ce qui est visible, dans ce qui apparaît à l'écran, mais aussi dans le code et dans ces espèces de petits haïkus informatiques qu'ils écrivent et que l'on peut aussi apprécier si on va dans la page code source, par exemple, du navigateur, du code donc, hein, qui déjoue les fonctionnalités habituelles d'Internet ou du réseau. Alors depuis, ils sont passés maîtres, hein, dans le détournement d'environnements technologiques comme celui des jeux vidéo, par exemple, ou d'autres interfaces du web. On peut penser aussi à Marc Napier, qui, dans les débuts, proposait un navigateur subversif ou alternatif. Alors lui questionnait finalement ce nouvel organe de vision que constituait le navigateur, qui nous permet aujourd'hui d'entrer en relation avec l'information, hein, de se documenter sur Internet, de naviguer dans cet espace d'information en réseau. Et il instillait une petite erreur, une coquille dans l'écriture du code HTML qui avait pour effet de déstructurer l'affichage des éléments multimédia à l'écran. Là, ici, vous voyez, j'ai entré dans ce navigateur l'adresse du ministère de la Culture. Le site est là, s'affiche, tous les éléments sont visibles. On peut naviguer finalement sur le site, cliquer sur les liens, sauf que cet agencement des informations est complètement déstructuré. Alors on pense un peu aux prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le glitch d'une certaine façon. On pense aussi aux travaux des artistes vidéo dans les débuts, hein, qui, s'intéressant au médium, avaient à cœur de déstructurer, de perturber le signal, d'altérer finalement la traduction graphique ici, ou l'organisation des informations multimédia à l'écran. Une autre affaire, j'allais dire, qui a compté aussi dans l'histoire du net art d'une certaine manière, est cette affaire qui a opposé eToy, un collectif d'artistes activistes, là encore, hein, qui parodient ou qui font des pastiches de sites web en révélant des informations que ces sites web ont tendance parfois à dissimuler, à l'endroit d'une guerre contre les multinationales qui opèrent dans la gouvernance de l'Internet notamment. eToy, ce collectif donc a été invité par une entreprise de vente de jouets par correspondance, Electronic Toy, à renoncer à cette appellation eToy, puisque finalement ça venait concurrencer l'activité économique et la portée, le classement dans le page ranking, par exemple, de Google, de cette entreprise de vente de jouets par correspondance qui est née dans les années 2000 au moment de la bulle Internet et qui fonctionne un peu comme Amazon, c'est-à-dire on peut commander des jouets en ligne et qui sont ensuite livrés sans qu'il y ait d'entité physique de magasin, de boutique qui permettent de le faire. Alors eToy a trouvé cette injonction un peu injuste et a organisé une première guerre informationnelle, ce qu'ils ont appelé une toy war, en invitant les internautes, vous et moi, à peu près n'importe qui, à passer des commandes de jouets sur le site électronique Toys, mais en omettant de remplir certains items, des formulaires, ou en ne remplissant pas tout à fait le bon de commande, ce qui a eu pour effet de saturer le serveur de cette entreprise et donc de paralyser son activité économique. Et ils se sont amusés comme ça à afficher sur leur site web la chute de l'action boursière de l'entreprise eToy.org à mesure que cette activité de cybermilitantisme ou de militantisme citoyen à l'endroit d'Internet opérait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on était à une époque où la possession du nom de domaine n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un nom de domaine, ça peut coûter très très cher et que c'est un requis d'en obtenir un. L'opération a été un succès sur le plan symbolique. Je ne parle pas du plan économique, mais aussi sur le plan juridique, puisque la loi, il y a eu jurisprudence, a considéré que l'antériorité de présence sur le web de eToy suffisait à débouter la demande d'eToy, mais l'autre, Electronic Toys, l'entreprise de vente de jouets, qu'elle trouvait inappropriée. Donc il y a eu cet exemple me tient à cœur parce qu'on est, tout à l'heure je vous disais qu'Internet est à la fois un support, un outil, un environnement, on est dans l'idée aussi qu'on a affaire à un espace, à un environnement, à un univers qui d'ailleurs est de plus en plus gouverné, on parle de gouvernance du réseau ou de gouvernance d'Internet, et de plus en plus aussi contraint par des lois qui peut-être viendraient freiner la liberté d'expression ou la liberté d'association aussi sur le réseau Internet. Alors, on peut penser évidemment à d'autres projets comme ceux des Yes Men. Je vais passer parce qu'il me semble que c'est un exemple que vous connaissez davantage, qui eux aussi, deux activistes, dont l'un était designer à l'origine, parodient réalise des sites web subversifs, comme le site web de George W. Bush ou le site web de l'Organisation mondiale du commerce, anciennement GATT, en essayant de remettre sur le devant de la scène des informations qui leur paraissent importantes à diffuser pour l'exercice de la démocratie, de l'information démocratique et de la parole citoyenne, et qui sont habituellement occultées par ces sites web officiels qui dissimulent finalement l'information ou qui omet de diffuser ces informations. Alors, ils sont passés maîtres dans cette espèce de parodie ou d'activisme médiatique, pas seulement sur Internet, mais dans tous les médias, finalement, puisqu'il y a une course à l'information, on le sait bien, ils produisent un faux site web, ils sont immédiatement invités par des radios, par des télévisions, donc ils donnent de fausses interviews, de fausses conférences, etc. Et ils sont toujours dans une espèce de posture qui n'est pas une posture de dénonciation critique, mais qui est une posture assez borderline, comme ça, limite, entre ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Et donc, ils vont être plutôt dans une posture de provocation, mais en gardant toujours, un accent informatif et politique dans chacune de leurs actions. Pour vous dire, ils ont opéré aussi sur des médias traditionnels, comme cette édition du New York Times qui a été distribuée un beau matin au kiosque, non pas au kiosque, aux sorties des métros new-yorkais. C'est un fake, une fausse édition du New York Times, mais qui a été opérée, réalisée par les ouvriers des rotatives, qui travaillent donc au siège du New York Times, et donc la nuit, c'est la perruque. Et puis aussi en mobilisant un certain nombre d'experts qui, en réalité, n'ont habituellement pas le loisir de s'exprimer dans ces médias, dans le New York Times, mais qui pourtant sont des experts sur les terrains politiques, sociaux, économiques. Bon. L'invitation de Yes Men était de dire, plutôt que d'arborer cette vision un petit peu pessimiste, catastrophiste qu'ont les médias traditionnels, qui vont mettre l'accent sur les faits divers pour faire diversion, qui vont accentuer... c'est difficile de dire ça aujourd'hui, mais... Il donne la parole à des experts pour leur dire, au-delà de ces problèmes, quelles seraient les solutions à envisager ou comment pourrait-on sortir par le haut ou, disons, trouver des remèdes aux problèmes qui nous affectent aujourd'hui. Donc, c'est un numéro que vous pouvez télécharger, qui est disponible en PDF sur la toile, qui malheureusement a fait aussi l'objet de ventes sur eBay, puisqu'il y a une espèce de spéculation autour de... Mais ça, c'est la dimension un peu moins noble de l'affaire, mais qui, du coup, est constituée d'articles qui sont des articles écrits par des spécialistes, experts de chacun des sujets qu'ils abordent et qui offrent une autre vision. Ce serait un peu caricatural de dire que ce journal ne donne que des bonnes nouvelles, mais il y a véritablement un autre ton qui est donné au traitement de l'information. On peut penser aux travaux plus contemporains aussi de Julian Oliver avec le FAT Lab, Free Art Technology Lab, qui produit des dispositifs. Par exemple, ici, on a une prise qui permet, lorsqu'on la branche sur le circuit électrique d'une entreprise de presse, par exemple, d'infiltrer finalement le flux RSS de la production des brèves du journal électronique pour infiltrer ce flux RSS de nouvelles et y introduire des nouvelles un peu alternatives ou différentes qui viendraient parasiter ce flux. À l'endroit toujours des médias, on peut penser à d'autres productions qui abordent davantage la question du visuel ou de la représentation. Ici, on a ce dispositif de Samuel Bianchini qui s'appelle Training Center, qui questionne presque, et moi je le trouve assez illustratif du passage de ce qu'on peut appeler des médias de masse aux médias, alors je ne vais pas dire les médias des masses, comme le dit Joël de Ronet, mais disons aux médias interactifs. Qu'est-ce que peut impliquer ce passage? Alors ici, vous savez que les sciences de la communication distinguent toujours les médias unicast, broadcast, multicast, unicast de 1 vers 1 comme le téléphone, broadcast c'est la diffusion massive qu'exerce la télévision, et multicast ce serait une communication de tous vers tous qui en tout cas permettrait une boucle de rétroaction entre émetteur et récepteur. Et il a pris cet archétype finalement de la diffusion médiatique ou de la retransmission, y compris en temps réel, d'un match de football à la télévision, en transformant finalement le curseur de l'ordinateur en une petite main, comme dans les logiciels graphiques, qui permettent de se saisir du ballon. Et lorsque l'internaute ou celui qui fait l'expérience de cette installation se saisit du ballon, ça vient complètement bouleverser la nature même de ce qui est donné à voir, puisque les coureurs se mettent à courir après la main qui a intercepté le ballon. Et donc on a une espèce de reprise en main individuelle du média, si on veut, qui vient déjouer l'idée de média de masse, hein, puisqu'on est dans quelque chose qui se retourne. Martin Le Chevalier avait lui-même précédemment proposé une réflexion critique à l'endroit de l'interactivité aussi. Vous avez vu tout à l'heure avec mes artistes un peu hackers que finalement le point de vue n'est pas celui de l'interactivité, hein, c'est tout le contraire, c'est à la rigueur la réactivité qui est mise en œuvre. On ne peut pas parler de passivité, hein, puisqu'on est vraiment interpellé par leur dispositif, mais en tout cas on n'est jamais dans une volonté de faire participer de façon interactive le public. Ici, il propose des petits films dont nous ne sommes pas les héros, mais dont les clics de l'utilisateur permettent à l'histoire d'avancer ou d'être transformée. Simplement, souvent, ce clic, cette responsabilité qui nous est donnée, interactive, est contrariée d'une certaine façon par les dispositifs qu'il met en œuvre, puisque finalement, cette croyance en l'interactivité déléguée à l'internaute ou au spectateur ou à l'amateur est ici bousculée par le fait que l'histoire n'avance pas ou qu'elle est contrecarrée. Hein. C'est l'histoire d'Oblomov, par exemple, qui est cet individu qui est caractérisé par l'oisiveté ou, disons, l'équilibre qu'il a trouvé dans une volonté de ne pas s'agiter, mais d'être dans une posture de suspension, comme ça, ou de lenteur, et qui est tout le contraire de la relation qu'on peut entretenir avec une image lorsqu'elle est interactive, c'est-à-dire qu'on va de manière frénétique et compulsive parfois vouloir cliquer pour qu'il se passe quelque chose. Or ici, le clic se heurte à une autre manière d'être d'exister finalement dans l'histoire et à l'écran. De la même manière, l'autre film dans lequel on reconnaît Mathieu Amalric ici, Le Papillon, caractérise la frustration qu'on peut avoir aussi face à, à un éventail de choix ou à un clic qui serait toujours qui serait infini comme ça et qui nous entraînerait dans les bifurcations d'une histoire sans fin. Le papillon caractérise un personnage qui est dans l'insatisfaction permanente et qui cherche à trouver un équilibre dans la vie, et l'interacteur va le propulser systématiquement va générer des événements qui vont entraîner ce protagoniste dans différentes histoires, mais qui seront des histoires qui n'engendreront finalement que de l'insatisfaction ou un manque. Donc on est dans une espèce de boucle sans fin aussi, dans lequel le public est responsable finalement de ce qui arrive à ce personnage, mais pas au sens où on l'entendrait habituellement. Dans cette autre œuvre, Samuel Bianchini questionne la dimension d'interactivité, mais à l'échelle plus collective, puisque, on ne le voit pas ici, mais on est face à un dispositif qui comprend 8 souris d'ordinateur et face à un cortège, un cortège de manifestants dans l'espace public, face auquel le public lui-même, qui fait l'expérience de l'installation, agit, alors pas comme un cordon de CRS, mais comme un public qui doit lui aussi se confronter à l'image, affronter l'image d'une certaine manière. Et il y a, j'ai dit tout à l'heure 8 souris, c'est pas du tout le cas, il y a 8 personnes et il y a une seule souris, donc il est nécessaire du côté du public aussi qu'il y ait une coordination ou une action coordonnée, disons, pour que l'œuvre puisse avoir lieu. Donc on est dans une relation où l'interactivité est déportée du côté du public qui doit lui-même, vous voyez ce mot comme ça qu'on scande lors des manifestations dans l'espace public, tous ensemble, est là reporté du côté de ceux qui font l'expérience de l'œuvre, qui doivent eux-mêmes être ensemble pour pouvoir faire en sorte que l'œuvre advienne et se réalise. Je ne vais pas commenter cet exemple qui a fait l'objet de la couverture de cette journée. D'autres artistes vont, alors c'est intéressant, sortir, je vous le disais tout à l'heure, sortir du réseau, questionner l'impact d'Internet ou des technologies numériques sur nos vies quotidiennes dans l'espace public. C'est le cas par exemple de Christophe Bruno, que vous connaissez sans doute, qui est obsédé par Google. On peut dire que toute son œuvre est dirigée contre Google, puisqu'il considère que Google est un peu le parasite d'Internet. S'il y a bien un virus à l'ère d'Internet, c'est Google, puisque Google s'est imposé massivement, de façon assez autoritaire, comme l'application qui nous permet d'avoir un accès à Internet. Et on connaît bien, on parlait de dispositif de contrôle tout à l'heure, la puissance de l'algorithme de Google qui engendre, selon Christophe Bruno, un capitalisme sémantique, puisque ce qu'opère Google, c'est une hiérarchie des mots, mais qui est une hiérarchie qui n'est pas signifiante, qui est une hiérarchie commerciale, enfin, ou économique, puisque c'est le taux d'utilisation des mots, des mêmes mots. On pourrait convoquer la loi de Pareto, 80% des internautes ne visionnent que 20% des sites web, on pourrait le dire de la même manière que 80% des lecteurs ne lisent que 20% des livres produits, il y aurait peut-être une analogie à faire. Mais ici, il va du coup essayer de contrecarrer ce dispositif. Alors, cette histoire du capitalisme sémantique, il l'a mis en œuvre dans un projet qui s'appelle le Dadamètre, où il cherche à cartographier cet usage appauvri des termes, en proposant une géographie sémantique de l'Internet, où il y a comme ça des groupes de mots sont utilisés dans certains endroits et par certaines personnes dans certains contextes. Et on a comme ça des zones de langage qui seraient des zones de langage très très pratiquées, d'autres qui sont au contraire des espèces de niches beaucoup plus marginales. Et il va établir une géographie en fonction comme ça de la valeur des mots aux yeux de Google, évidemment, puisque les mots ont un prix. Hein. Vous savez que, par exemple, si je vous pose la question de savoir quel est le mot le plus cher dans l'économie Google, vous allez peut-être me dire sexe ou... En fait, c'est le mot free qui est le mot le plus cher. C'est ce que nous montre Christophe Bruno, puisque ce terme, qui veut dire à la fois libre et gratuit, est le mot le plus utilisé, finalement. Hein. Il apparaît sur toutes les pages web à longueur de navigation. Donc, il y a un étrange et curieux paradoxe ici. Et il questionne aussi cette mainmise de Google sur nos façons de communiquer, d'être ensemble, de s'informer aussi, en réalisant une performance qu'il appelle The Human Browser, qui est finalement une performance théâtrale jouée par un comédien qui incarne l'algorithme de Google, qui d'une certaine façon est possédé, on pourrait presque dire aussi, par Google, puisque toutes nos paroles sont interprétées systématiquement par ce comédien comme des questions ou des requêtes au moteur de recherche auquel il va répondre, se proposer de répondre. Alors évidemment, ça donne une communication assez heurtée, parce que c'est très difficile de communiquer avec une machine comme Google, par exemple, mais ça met aussi le doigt sur le fait que, inévitablement, de nos jours, lorsqu'on cherche une information, on la demande davantage à Google qu'à l'humain qui peut être à côté de nous, ou à son voisin, etc. On s'informe de plus en plus pour tous les sujets de en permanence à Google. Donc il met en scène cette forme de non-communication ou d'incommunicabilité entre la machine et l'internaute ou le navigateur. On a d'autres projets comme Seppuku où... Alors, ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on sort quand même du réseau où on va finalement réinvestir l'espace public. Hein, somme toute, on est constamment en relation avec Google, même quand on est hors du réseau. Donc, Seppuku ou le Web Suicide Machine sont des applications Web 2.0 qui invitent les internautes à renoncer à leur identité numérique, d'une certaine manière, hein, dont on sait très bien aujourd'hui qu'elle devient un argument publicitaire ou économique pour la multinationale que sont les multinationales, que sont les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Et donc, on a des collectifs d'artistes qui ont saisi à un moment une faille dans Facebook ou d'ailleurs dans LinkedIn ou Academia ou d'autres types de plateformes de réseaux sociaux, et ont permis du coup ce que devraient permettre à leurs yeux ces plateformes, c'est-à-dire de redevenir, de reprendre en main son identité et puis évidemment tous les contenus aussi, toutes les informations qu'on a pu céder à ces plateformes, comme on fait une cession de droit, c'est-à-dire en renonçant à la possibilité de se réapproprier ces informations. Évidemment, aujourd'hui, ça n'est plus possible, puisque ces plateformes ont colmaté la brèche par laquelle s'étaient infiltrés les net artistes, et ils ont même été poursuivis. Enfin, il y a eu des procès intentés au Web2 Suicide Machine ou à Seppuku. Mais néanmoins, ça avait créé une espèce de vague, comme ça, assez intéressante, qui fonctionnait sur le mode des réseaux sociaux, hein, puisqu'on pouvait avoir des amis suicidés. Enfin, on pouvait inviter, évidemment. Donc, ça, bon, bref. Paolo Sirio, aussi, que vous connaissez peut-être, qui est un artiste italien, lui s'intéresse également à cette mainmise des... multinationales, GAFA, etc., sur les personnes, en proposant différents dispositifs. Alors, Face to Facebook, par exemple, est un dispositif qu'il a constitué, dans lequel il procède par le vol d'un million de profils d'utilisateurs Facebook et qu'il traite dans un logiciel de reconnaissance faciale pour finalement les inclure dans un site de rencontre fabriqué sur mesure qu'il a constitué, qui s'appelle lovelyface.com. Donc vous vous retrouvez un peu par hasard inscrit sur un site de rencontre sans l'avoir désiré, et ça questionne évidemment la vie privée, l'identité réelle et virtuelle, et puis une mise en garde aussi à la grande échelle face au risque de partage des informations personnelles sensibles sur le réseau. Il a constitué aussi un autre projet qui s'appelle Street Ghost, où il... Bon, là, c'est Lawful for All, c'est un autre projet qui révèle l'identité de 200 000 entreprises enregistrées aux îles Caïmans, donc il dénonce un peu l'évasion fiscale, etc. Et Street Ghost, donc autre projet de Aram Barthold, consiste à imprimer les profils comme ça, plein pied d'utilisateurs, de citoyens qui ont été photographiés par la Google Car dans l'espace public et qui donc retrouvent leur image sans en être conscient ni informé hein, sur Google Street View. Et donc il va disons parfois hein, les portraits sont tout juste flouté, hein. Vous voyez qu'on peut tout à fait reconnaître les personnes, puisqu'il y a cette précaution que prend Google Street View de flouter les personnages, mais la silhouette et la pauvreté du floutage fait qu'on est dans des choses très reconnaissables. Donc ça pose la question aussi de la vie privée, là encore, hein, de l'utilisation de l'image et de l'exploitation de l'image aussi dans ces plateformes. Alors lui fait une intervention comme ça dans l'espace public où il va imprimer, coller, ses portraits sur pied à l'endroit exact où la Google Car a pris les photographies. On a le cas de Aram Barthold aussi qui s'inspire de la philosophie du réseau et du web en disant aujourd'hui ce qu'il y a de plus noble peut-être qu'a permis Internet, c'est le partage de données, c'est la communication libre, l'expression libre, etc. Or tout ça est menacé par des dispositifs de contrôle de plus en plus proliférants sur la toile et sur le réseau. Et donc, il considère que la seule manière, encore aujourd'hui, outre les anonymiseurs, etc., mais qui sont également menacés, de partager des informations et des données librement, sans être tracé, traqué, enregistré, etc., c'est de l'opérer dans l'espace public. Donc, il transfère la logique, finalement, qui est celle du réseau, hors du réseau, en permettant, notamment à travers ce dispositif qui s'appelle Dead Drops, qui fait référence aux boîtes à lettres des espions pendant la guerre froide, d'incruster dans l'espace physique, dans les murs de nos villes, des clés USB qui permettent du coup de partager des données sans que ces données soient enregistrées, tracées par des logiciels tels que Google, etc. Alors vous voyez, 1022 clés dans le monde, 4469 gigaoctets de stockage total. C'est une façon aussi de considérer que Internet détermine d'une certaine façon ou enrichit nos modes d'être et de communiquer dans l'espace public physique, hein, puisque finalement cette logique du réseau peut être transportée ou exportée, sortir d'Internet pour s'exprimer aussi dans l'espace public. Ici, vous voyez aussi des installations, alors là, tout ce qui est le plus matériel, hein, qu'il opère dans l'espace physique, où il va installer ces symboles de géolocalisation que l'on retrouve dans Google Maps, cette fois, dans l'espace physique réel, en insistant sur le fait que, évidemment, aujourd'hui, on parlait de GPS tout à l'heure, de géolocalisation, etc. Notre représentation de l'espace, de la mobilité, etc., est complètement influencée par, enfin, ou opère à travers ce maillage entre réalité et virtualité. On pourrait questionner ces notions, mais disons entre monde réel et monde virtuel. Et donc, ces nouvelles cartographies de l'espace, ces no-go zones, etc., on peut penser à ça aussi, c'est-à-dire cette nouvelle délimitation des espaces que le numérique opère ou auquel il contribue, peut être aussi un enjeu de débat public et citoyen via des installations comme celle-là qui permettent de repenser les points de centralité dans une ville, par exemple, ou la question des frontières, de la démarcation des espaces, etc. Tout à l'heure, on va parler de musée. Aram Barthold considère, par exemple, que le musée idéal, finalement, pour l'expérience du net art, outre le fait que ça s'opère directement sur vos ordinateurs auxquels vous avez accès, ou vos smartphones, depuis n'importe où, depuis chez vous, etc., depuis votre chambre, ça peut s'opérer aussi collectivement dans ces lieux, après tout, plus adéquats, peut-être, selon lui, que sont les cybercafés ou les internetcafés, alors qu'il investit, du coup, hein, qu'il va louer parfois pour une soirée et pour y proposer des performances, si on veut, de net art qui, finalement, ont peu de visibilité ou d'existence encore au sein de nos musées. Toujours sur cette logique des instruments de contrôle et de surveillance, on a ce dispositif de Albertine Meunier qui réalise alors là aussi, c'est intéressant du point de vue de la conservation, par exemple, et du musée, qui réalise, ou de l'obsolescence technique, ou de cette relation entre espace numérique et espace réel, qui va imprimer un livre dans lequel, qui constitue un peu son journal intime de visite pendant des mois sur Internet. C'est-à-dire qu'elle imprime son Google Search historique, d'une certaine façon, qu'elle présente un peu comme un journal intime et autobiographique, avec cette idée redoutable quand même derrière aussi, qui est que si vous vous intéressez au Google Search historique de n'importe qui, vous pouvez en savoir beaucoup plus sur sa personne que en relisant son CV, par exemple. Donc il y a une espèce de portrait qui est un portrait là volontaire, mais qui en même temps est très souvent met en garde aussi contre ces enregistrements hein, des historiques de navigation qui constituent aussi une forme de contrôle ou de surveillance d'une certaine façon de nos agissements, de nos comportements sur Internet. Toujours dans ce passage de l'Internet au monde physique réel, quelqu'un comme David Gaze aussi va penser l'obsolescence technologique ou la relation qu'on peut avoir cette fois-ci à la mémoire ou à la conservation aussi de ce que l'on fait sur Internet, puisque vous savez bien qu'Internet c'est un endroit, on parlait de temps et de temps réel tout à l'heure, c'est un endroit du flux continu, mais aussi de la disparition. On nous a vendu le numérique comme des technologies qui permettaient au contraire de conserver, de rendre plus pérenne depuis les multiples supports d'enregistrement que sont la disquette, le CD, le DVD, le disque dur, etc. On sait aujourd'hui que tout ça a une durée de vie et une existence bien plus précaire qu'on ne le croit. Et donc, pour reprendre la main sur cette obsolescence programmée que nous propose le numérique, quelqu'un comme David Gaze va concevoir des disques durs papier. Par exemple, ici, il s'agit de disque dur papier La Jetée de Chris Marker, où il va numériser le film, l'imprimer en code binaire dans un livre avec une bonne vieille couverture, hein, reliée, etc., et qui va pouvoir être réinterprété dans le futur, alors même que les systèmes d'exploitation, les logiciels, les plugins, la connectique aura pu changer beaucoup, etc. Donc finalement, n'importe quel ordinateur qui permet de lire le langage binaire de 0 et de 1 permettra dans 100 ans de pouvoir décoder la jetée de Chris Marker, alors que les supports numériques auront eux-mêmes été altérés ou auront disparu. Humanpedia, il fait la même logique de projet sur l'idée de l'encyclopédie en ligne, qui redevient une encyclopédie humaine, puisqu'on doit chacun apprendre finalement 3-4 définitions, et ça aura plus de pérennité que cette base de données en ligne dont on peut louer l'existence, hein, mais qui, là encore, dont l'obsolescence est peut-être assez rapide. Dans cette même logique, toujours de glissement de la philosophie d'Internet ou du réseau dans l'espace public. Alors, on peut revenir à des projets plus anciens, hein, le web des produits remboursés de Mathieu Laurette, qui lui a vécu pendant 5 ans de sa vie en remboursant sa consommation de produits domestiques et alimentaires, en poussant dans ses derniers retranchements la logique du satisfait remboursé de nos grandes surfaces, de la grande distribution, c'est-à-dire que systématiquement, il découpait la proposition satisfait remboursé qu'il renvoyait. Et voilà. Bon, alors, c'est intéressant parce qu'il a fait ça physiquement d'abord, avec son van. Il circulait dans l'espace public, il distribuait des menus qui comprenaient, comme tous les menus, un entrée, un plat de résistance et un dessert, et l'indication du lieu dans lequel ces produits pouvaient être achetés et intégralement remboursé. Et donc, il a créé une base de données. C'est une figure également très, très présente dans l'univers et la philosophie de l'informatique ou du numérique, hein, celle du flux et de la base de données. Évidemment, les deux choses vont de pair. Une base de données participative, hein, cette fois, puisqu'il invite les internautes aujourd'hui à faire la même chose dans leur territoire, etc., c'est-à-dire à éditer des menus et à partager comme ça les ressources de cette base de données. Alors, il l'a fait dans un sens plus politique avec le Citizenship Project aussi, qui était une base de données de partage de ressources sur les conditions d'obtention de nationalité multiple, par exemple. Donc, c'était une base de données également qui proposait des textes juridiques, mais aussi des tuyaux, des conseils, pour partager ces choses-là. Évidemment, si on revient à l'archéologie du net art, on considère que cette pièce est une des premières pièces, peut-être, qui qualifie ce genre artistique, The File Room d'Anthony Muntadas, qui est à la fois une base de données, un serveur en ligne, mais aussi une installation, cette fois muséale, dans l'espace physique, avec qui arbore un bureau comme ça, assez kafkaïen, avec un grand nombre de casiers métalliques dans lesquels sont classés des dossiers, des fichiers. Et ces dossiers, en l'occurrence, contiennent des témoignages de cas de censure dans l'art contemporain. Donc il proposait déjà en 1994 de constituer une œuvre participative en invitant les artistes à témoigner de l'expérience, de leur expérience, d'une œuvre censurée, et donc à créer une espèce de musée des œuvres qui n'ont pas eu lieu, finalement, hein, des œuvres qui ont fait l'objet d'une censure politique ou institutionnelle, ou etc. Sur le thème du flux et des bases de données, on peut penser à cette pièce, évidemment, de Samuel Bianchini, qui s'appelle « Discontrol Party », dans lequel lui va, de façon parodique, ludique, énormément aussi, et critique, questionner le poids, la puissance de ces outils de surveillance que sont aujourd'hui évidemment toutes les caméras, mais aussi les puces RFID et toutes les bases de données et logiciels qui permettent de mesurer, d'interpréter cette captation toujours infinie d'images, d'informations, etc., sur nos vies privées. Et donc, il le fait sous le mode d'une performance ou d'un spectacle, d'une certaine façon, qu'il organise. Alors là, c'était à la Gaîté Lyrique, par exemple, à Paris, dans lequel le public est invité à déjouer mettre à mal le dispositif de vidéosurveillance ou le dispositif de captation de données face auquel il est soumis. L'ensemble des murs sont recouverts d'écrans, hein, dans cette salle, et quadrillés par tout un tas de contrôleurs, donc de contrôleurs liés à des logiciels de captation de ces informations, sachant que cette captation et cette surveillance opère parfaitement bien quand il s'agit d'un individu isolé dans un espace, quand il s'agit de groupes ou de collectifs massivement associés, c'est bien plus compliqué. Donc il y a l'idée de déjouer aussi comme ça, en étant tous ensemble, en nombre, ces dispositifs de contrôle. Alors c'est vrai que c'est des termes qui reviennent beaucoup, hein, remédiation, disnovation, discontrôle, disruption, etc., sont une terminologie aujourd'hui qu'on trouve beaucoup dans l'art numérique et interactif, qui pose un regard assez critique à l'endroit de ces technologies. Toujours dans cette idée du flux et de la base de données, les artistes aussi sont assez obsédés finalement par cette fuite en avant que constitue la diffusion des informations sur Internet, hein, puisqu'on est dans un flux permanent dont on ne peut conserver qu'une partie des traces. C'est très très frustrant de voir que les choses prolifèrent et disparaissent à mesure qu'elles prolifèrent. Reynald Drouin, déjà depuis Defrag, hein, était intéressé par ces questions de rejouer la fragmentation, la défragmentation d'Internet, en essayant de faire un hold-up de ces données, de ces images, de ces fragments d'algorithmes ou de logiciels pour leur faire dire autre chose que ce pour quoi ils avaient été conçus. Ici, on a, avec Gridflow, une œuvre qui s'inspire aussi de cette dynamique, qui est une espèce de pluie, comme ça, d'images qui, en fait, est une captation en temps réel d'images postées sur un certain nombre de sites web et de blogs et de serveurs, etc. Donc on a une espèce de photographie en temps réel, alors je ne sais pas, de l'évolution de la représentation graphique ou d'image sur le réseau Internet, puisqu'on est comme ça dans une espèce de flux permanent qui donne à voir des choses quand même, puisqu'on est aussi dans cette idée du remix, du copier-coller, du mème, où finalement on a, selon les moments, les périodes, une prolifération d'images qui se ressemblent, hein, qui dénotent d'une culture visuelle liée au contexte, à l'actualité, à un moment donné, etc. Et qui questionne cette incapacité aussi finalement de conserver, de sauvegarder, de garder, de capturer l'information. Cette autre pièce de Grégory Chatonsky, Capture, est une entreprise aussi de ce type-là. Il crée un groupe de rock qui est entièrement composé de machines. On voit des humains autour, mais ces humains sont un peu des agents qui sont là, convoqués pour le bon fonctionnement des machines, sachant que le visuel, le packaging, la musique, les paroles, tout ce qui est mobilisé par ce groupe de rock n'est qu'une réappropriation, ou un recyclage, un remix de choses prélevées sur le réseau. Donc c'est assez perturbant parce qu'on entre dans un concert, il n'y a pas de début ni de fin. On peut faire la fête devant quelque chose qui est généré par la machine elle-même, puisque c'est finalement ces flux qui sont mis en scène. Et puis, j'ai envie de finir sur cet exemple Hyper Olds, qui est un projet, cette fois, là encore, hein, qui s'inspire du net art, je pense, ou qui est influencé par la philosophie du net art, mais qui s'opère dans l'espace public. Il s'agit d'un projet mené par Albertine Meunier, Julien Lévesque et d'autres ambassadeurs d'Hyper Halls, et qui vise à organiser des ateliers destinés à des personnes femmes de plus de 77 ans, qu'ils considèrent comme étant vraiment celles qui souffrent de la rupture numérique. Leurs conjoints ne sont pas invités parce que sinon c'est toujours eux qui prennent les souris et qui manipulent les œuvres, qui font des choses avec. Et donc ces femmes de plus de 77 ans font du net art. Oui, elles ne sont pas invitées à un atelier d'initiation au logiciel ou à l'internet. Non, elles sont véritablement invitées à questionner l'environnement que constitue Internet, le réseau, l'informatique, le numérique, et à produire une réflexion ou des actions. Elles font aussi des espèces de descentes dans les lieux très masculins, geeks, de l'innovation numérique et technologique, qu'elles viennent perturber, comme le feraient des hackers. Voilà. Elles ont réalisé un glossaire aussi de termes qui sont des termes spécifiques de la culture numérique. Hacker, lolcat, je sais pas moi, Anonymous, c'est assez délicieux d'aller voir, d'écouter leur définition de ces termes, qui sont des termes qu'on pourrait penser très très éloignés de leur culture, mais pour lesquels elles ont néanmoins une idée, puisque ces termes, même si elles sont a priori indemnes d'Internet, ou de la culture, de l'usage d'un ordinateur et de la pratique d'Internet, ce sont des termes qui sont constamment convoquées dans la presse, à la télévision, etc., enfin dans l'univers qu'elles fréquentent. Et elles ont une connaissance qui ne passe pas par la pratique, mais de chacun de ces termes. Alors évidemment, ça donne des définitions qui sont assez peu orthodoxes, hein, c'est assez intéressant en soi de voir le décalage qu'elles peuvent avoir aussi vis-à-vis de ces technologies-là. Donc Elle pratique ça de façon collective. Alors, j'ai sans doute dépassé, j'avais trop de slides. Peut-être que ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que ces différents projets, au croisement de l'esthétique et du politique, au croisement de la création artistique et de l'innovation technologique aussi, permettent de répondre à un certain nombre de questions. À quoi servent les outils numériques et qui servent-ils ? Peut-on en faire autre chose que ce pour quoi ils ont été prévus ? L'utilisateur, peut-il reprendre un certain pouvoir face à des solutions techniques de plus en plus complexes et formatées dans des objectifs marchands? On peut penser ici à la théorie critique de la technique d'Andrew Finberg, qui s'intéresse aux outils numériques, qu'il analyse souvent comme des outils de rationalisation sociale au service d'instances de domination, mais qu'il ne limite pas à cette vision déterministe également, puisque selon lui, l'appropriation des technologies est aussi une co-construction sociale, hein, toujours. Les technologies numériques paraissent marquées par une instabilité inédite, et les groupes subordonnés, les utilisateurs peut-être, les amateurs, les artistes dans certains cas, peuvent manifester leur influence à l'encontre des forces hégémoniques via des stratégies de détournement, contournement, rejet, etc. On peut, si on s'intéresse à l'usage aussi, penser que le succès de certains outils et technologies est par conséquent plus souvent qu'on ne le dit lié à l'invention simultanée de leur usage, au point que ce sont parfois ces derniers, les usages, qui constituent la véritable innovation. On peut prendre pour exemple la perspective, la photographie, les plus contemporains outils vidéographiques d'enregistrement du réel, et jusqu'au tout dernier réseau informationnel numérique. Si le moteur principal de l'innovation dans tous ces cas est technologique, relevant en cela de la recherche stratégique, scientifique, parfois même militaire, leur reconnaissance sociale s'origine tout autant dans le monde culturel ou dans l'univers de la création artistique. Leur succès, d'une certaine manière, leur diffusion aussi, difficile à promouvoir, et qui la plupart du temps ne peut pas être pleinement définie, prédéfinie ou anticipée, suppose une première appropriation sociale de ces technologies. Et il me semble que les artistes peuvent jouer un rôle, évidemment, d'usagers pionniers de ces technologies-là. L'approche d'Andrew Finberg peut croiser aussi là les travaux du théoricien canadien Marshall McLuhan, dont l'intérêt pour la technique et pour les médias a été précurseur de nombreuses réflexions et créations à l'interface des arts, des sciences et des technologies. Ces deux auteurs, Finberg, McLuhan, on pourrait en citer bien d'autres, hein, développent l'idée selon laquelle les artefacts qui réussissent sont ceux qui trouvent des appuis dans l'environnement social et insistent sur la capacité des utilisateurs à toujours réinventer, transformer, bousculer les techniques qu'ils utilisent. Dans ce contexte, les œuvres de l'art et ou la pratique artistique sont appelées à jouer un rôle spécifique, comme chez Marshall McLuhan, par exemple, selon lequel l'art peut être vu comme un contre-milieu ou un antidote. L'art, vu comme contre-milieu et comme antidote, devient plus que jamais un moyen de former la perception et le jugement. Ce dernier pariait d'ailleurs sur le pouvoir qu'ont les arts de devancer une évolution sociale et technologique future, quelquefois plus d'une génération à l'avance, puisque, comme il disait, l'art est un radar, une sorte de système de détection à distance qui nous permet de détecter des phénomènes sociaux et psychologiques assez tôt pour nous y préparer. Si l'art est bien un système d'alerte préalable, comme on appelle le radar, il peut devenir extrêmement pertinent, non seulement à l'étude des médias, mais également à la création de moyens d'y faire face, de les dominer, de se les approprier, de les critiquer, etc. Cette question du détournement croise donc la pratique artistique, où l'on voit des artistes faire preuve d'inventivité dans l'usage de solutions non prévues d'outils numériques, où l'on voit aussi le rejet de solutions toutes faites, de prescriptions imposées, finalement. On peut s'attendre légitimement à ce que la création artistique, du fait de son caractère expérimental et souvent pionnier, participe activement de cette co-invention des usages technologiques, jusqu'à transformer quelquefois les technologies elles-mêmes, en contribuant à en redéfinir la forme et les modalités de mise en société. De ce point de vue-là, j'ai parlé ici du net art, mais des mouvements artistiques comme l'art vidéo, l'art sociologique, l'esthétique de la communication, l'art réseau, etc., se sont constitués précisément autour d'une expérimentation des technologies de communication et ont donné lieu à de nombreuses installations et dispositifs artistiques qui ont largement préfiguré cette posture critique que Internet connaît, enfin en tout cas que les artistes déploient à l'ère d'Internet aujourd'hui. Je vous remercie.